carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve David Gaillardon.
Alors il y a des noms de lieux qui évoquent beaucoup plus qu'une terre et qui portent en eux des univers tout entiers. C'est le cas de Grousset qui désigne à la fois un château situé à Montfort-la-Maurie dans les Yvelines et qui symbolise surtout un art de vivre et la passion d'un homme, Charles de Bestégui, collectionneur et mécène fastueux qui en fit l'acquisition en 1938 sur le conseil avisé de l'académicien français Jacques de Lacretel, l'auteur du roman Zilbermann. Avec nous pour parler aujourd'hui de Grousset et de Charles de Bestégui, Ariane Chauffet-Rivard, qui est historienne de l'art et qui connaît bien Grousset. Alors, peut-être qu'avant de parler de Bestégui, qui est à la clé de cet univers de Grousset, vous pourriez nous restituer, Ariane, la proto-histoire de Grousset, car il y a eu un Grousset qui a préexisté à Grousset.
Le château de Grousset a été ruiné à la Révolution, racheté par la duchesse de Charolles, qui était elle-même la fille de Madame de Tourzel, gouvernante des Enfants de France. Et elle a fait raser donc ce château primitif du XVe siècle, puisqu'elle voulait avoir la vue sur les ruines de Montfort-la-Maurie.
Elle en fait une maison de campagne, en fait.
Tout à fait. C'est un cube néoclassique, relativement petit dans ses dimensions, qu'elle habite, et c'est là où mourra sa mère.
Et alors, ensuite, des propriétaires russes vont se succéder.
À Grousset, oui, les Samoïlov, en 1844, et la princesse Soltikov.
Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là, en 1938, qu'arrive Bestégui. Quand il achète Grousset, on est donc aux portes de Paris, du côté de Versailles. On est à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et c'est un détail qui aura son importance par la suite. Il est déjà un homme qui est auréolé d'une réputation de mécène fastueux et d'excentrique aussi. Parce qu'il y a eu cette collaboration des Champs-Élysées avec Le Corbusier, dont vous pouvez nous parler.
Oui, il a loué au numéro 136 des Champs-Élysées un appartement en dernier étage et il a commissionné Le Corbusier pour y construire un appartement moderne, moderniste. Le Corbusier avait une grande théorie des toits-terrasses à Paris. Il voulait révolutionner les toits de Paris. Et il a eu l'occasion rêvée avec le chantier de Charles de Bestégui. Et en réalité, Charles de Bestégui l'a ensuite transformé en une sorte de demeure surréaliste. Il y a un dialogue entre Le Corbusier et Bestégui et à la fois quelque chose d'assez étonnant, c'est un appartement où on tend 4000 mètres de câbles électriques. Tout fonctionne à l'électricité, c'est très très moderne pour les années 30. Les portes s'ouvrent automatiquement, les fenêtres aussi. Et Monsieur Bestégui exige qu'il soit éclairé à la bougie. Donc voilà, on a vraiment cette opposition entre les deux. Et qui a été un très grand succès dans les années 30 à Paris.
Alors, c'est un succès parce que tout le monde veut voir cet appartement. On y reçoit les gens à la mode, les Faucigny-Lucinge, les Noailles, les Beaumont. La collaboration entre deux caractères assez forts, Bestégui d'un côté et Le Corbusier de l'autre, et finalement, elle se passe très mal parce que Le Corbusier pense qu'il va avoir les mains libres et faire quelque chose de très cubique, très moderne, comme vous disiez. Et puis Bestégui, qui est plutôt amateur de classicisme, voire de néoclassicisme, met des rideaux, des pompons, de la passementerie. Et c'est deux univers complètement différents. C'est un appartement très girly, finalement. Ça ne va pas bien se passer, cette histoire.
Alors, il faut savoir que les deux sont en voyage la plupart de l'année, donc ils ne se voient pas. Ils s'échangent des lettres, les lettres dans lesquelles le ton est souvent assez sec de part et d'autre, puisque Bestégui donne des conseils, envoie des croquis, et Le Corbusier rappelle dans toutes ses lettres qu'il est quand même le chantre du modernisme et qu'il est le leader, en quelque sorte, de l'architecture contemporaine à cette époque. Et effectivement, il y a une collaboration qui va être assez mal vécue, mais à l'origine, Charles de Bestégui avait vraiment un projet moderne, puisqu'il se calquait sur les Noailles, leur villa de hier, qui avait été faite par Malestévins. Donc je pense qu'il y avait une vraie volonté d'adopter ce style moderne, le modernisme, par Charles de Bestégui, et qu'au fur et à mesure, il a compris que ça n'était pas vivable. Voilà, c'est vraiment une caractéristique de Charles de Bestégui, c'est le confort et l'art de recevoir, d'être bien.
Alors il avait l'habitude de dire qu'un homme qui se veut moderne est un homme qui sera démodé.
Il se confie au Harper's Bazaar un peu après l'appartement des Champs-Élysées et il dit effectivement que l'homme qui pense moderne est démodé. Pour lui, il a tourné la page, il a essayé et puis il s'en est allé. Mais c'est assez. Charles de Noailles fera exactement la même chose. Après hier, il rachète une villa à Grasse et il délaisse le modernisme. Et les Rothschild aussi ont fait des tentatives. pas jusqu'au modernisme, ils sont plutôt voilà, dans l'art déco, mais ils vont revenir assez rapidement au style 18e.
Alors, tournons la page, nous aussi. Quittons Paris, partons en région parisienne, on ne parlait pas encore de banlieue à l'époque, et retrouvons-nous à Montfort-l'Amaury. Si vous voulez, Ariane, vous allez être notre guide. Présentez-nous désormais donc ce château de Grousset où arrive Charles de Bestégui, flanqué d'un décorateur qui va énormément compter dans l'histoire à écrire de Grousset, qui est Emilio Terry.
Oui, Emilio Terry est architecte et décorateur. Ils sont très complices avec Bestégui puisqu'ils sont amis depuis l'enfance, ils se sont rencontrés à Biarritz et ils partagent tous les deux une naissance française pourtant teintée d'exotisme puisque Bestégui est né à Paris, Terry est né à Chenonceau, enfin en Touraine, et pourtant tout Paris parle de Bestégui comme un Mexicain et de Terry comme un Cubain.
Ce sont des fortunes des îles à sucre.
Voilà, exactement. La fortune de Bestégui s'est faite autour des mines d'argent, bien avant lui, ça c'est la génération d'avant. Et donc, il partage un goût qui est effectivement qui puise aux sources du classicisme, qui va réinterpréter des sources historiques. Et après la collaboration avec Le Corbusier, Charles de Bestégui s'est plutôt orienté vers quelqu'un avec qui il partage un goût. En 1938, il trouve une demeure donc néoclassique qui a été peinte en rose avec des volets verts. Elle est cerclée d'une pergola, l'architecture est complètement masquée. Et ils ont des grands projets. Cependant, Bestégui est très clair. Il y a un mémo qui est conservé d'ailleurs aux arts décoratifs qui établit les rôles entre Bestégui et Terry. Il précise qu'il s'occupera des aménagements intérieurs et qu'il confie en quelque sorte l'architecture plutôt à Emilio Terry. En réalité, ça va être plus complexe que ça puisque c'est un chantier qui s'étale sur 30 ans. Donc il va y avoir une réelle collaboration entre les deux. Et l'architecture est absolument due à Emilio Terry. Et les intérieurs à Charles de Bestégui. Et parfois, c'est un dialogue entre les deux.
Alors au pavillon central, on va ajouter deux ailes en retour.
Oui, dans les années 50.
Et puis il y a surtout ce parc à fabriques.
Oui, alors c'est Grousset, on voit plusieurs étapes pendant la guerre, comme Emilio Terry est réfugié dans le Cantal. Charles de Bestégui se concentre sur les intérieurs de Grousset. Il n'y a pas de grands travaux d'architecture. Seule la bibliothèque nécessite de casser deux murs. Elle réunit quatre pièces de deux sur deux étages. Donc tous ces intérieurs sont faits pendant la guerre. Ensuite, dans les années 50, de 54 à 57, il y a deux ailes qui sont rajoutées, avec un théâtre d'un côté, une salle hollandaise de l'autre. Et ces deux pavillons sont reliés par des galeries, de fabuleuses galeries, la Louis XIII et celle des Goya. Et puis ensuite, à partir des années 60, fin des années 50, début des années 60, jusqu'à sa mort en 1970, il fait construire des petites fabriques, des folies dans son parc.
Oui, alors on a souvent le souvenir uniquement par des tableaux ou des gravures de ces parcs à fabriques du XVIIIe siècle. En France, la Révolution leur a souvent emporté un coup fatal. Il y a ces parcs anglo-chinois dont il reste effectivement pas mal d'exemplaires en Angleterre. Ou alors en Allemagne, notamment au parc de Wörlitz en Thuringe. Mm-hmm. Cette architecture néoclassique avec des parcs dont le relief est aménagé, les cours d'eau détournés et ici un temple, une pagode, un pont palladien agrémente cette propriété, comme c'est le cas à Grousset.
Tout à fait. Et à Grousset, comme dans d'autres parcs, mais c'est assez fascinant que ça ait été fait dans les années 60, Bestégui va détourner des cours d'eau, faire creuser des pièces d'eau pour avoir l'exacte perspective qu'il souhaite, pour qu'on puisse voir la pagode chinoise depuis le château d'une certaine vue. Et c'est la même chose pour le pont palladien et la pyramide. À chaque fois, il va agir sur le paysage pour que ça corresponde exactement à ce qu'il souhaite.
Oui, alors c'est un collectionneur, c'est un mécène, c'est un lettré, c'est un esthète. Et certains des survivants de cette époque Bestégui racontent que lorsqu'on a construit le pont palladien, on avait donné un grand déjeuner à Grousset et qu'on avait construit un pont en carton et qu'avec des talkie-walkie, on communiquait au bout du parc en demandant est-ce qu'il faut rapprocher, est-ce qu'il faut déplacer le pont de manière à ce que la vue soit parfaite depuis la terrasse lorsqu'on donnait un déjeuner. C'est aussi ça Bestégui.
Tout à fait. Je ne sais pas s'il y avait des talkie-walkie à l'époque, mais en tout cas, il y avait un aide qui courait d'un point à un autre. Et en fait, Charles de Bestégui réunissait tous les jeudis toutes sortes de personnes, des grandes fortunes, des grandes familles, et puis des très belles femmes, souvent à table, étaient là, le tout servi en livrée. Et puis, il y mettait des entrepreneurs, voilà, des personnes qui avaient une expertise, qui allaient lui servir pour ses chantiers. Il mélangeait tout ce monde-là et il leur demandait leur avis, même si c'était lui toujours qui choisissait en dernier ressort. Et effectivement, pour le pont palladien, il y a eu toute une séance pendant laquelle ces messieurs et ces dames demandaient à faire avancer ou reculer le pont pour qu'il soit à l'exacte position souhaitée.
Alors, avant de découvrir le quotidien de Grousset, marquons une pause, si vous voulez bien, Ariane, quelques instants.
Il se situe à côté de Bordeaux, le château de la Brède est le lieu où vécut Montesquieu. Retrouvez avec Olivia Battistello la magie d'un lieu d'exception, ainsi que la vie du philosophe et académicien dans l'émission « La demeure de Montesquieu ». Sans plus attendre, canalacademy.com vous ouvre les portes de la philosophie.
Nous retrouvons Ariane Chauffet-Rivard qui est venue nous parler de Grousset et nous décrire l'univers quotidien de Charles de Bestégui à Montfort-l'Amaury, tout près de Paris. Vous nous parliez, Ariane, des constructions successives de ces fabriques dans le parc de Grousset. Nous parlions à l'instant du pont palladien que Bestégui avait fait édifier en 1960 et des fameux déjeuners du jeudi. De nombreux académiciens se pressent à Grousset. Il y a Marcel Achard, il y a Paul Morand, il y a Jean Cocteau. On a dit que c'était grâce à Jacques de La Crêtelle, l'auteur de Zilbermann, que Bestégui avait acheté en 1938 cette propriété de Grousset. Quel est le quotidien lorsqu'on est invité à un week-end ou à une partie chez Bestégui ? Parce que il a un caractère, encore une fois, très difficile.
Alors, on a beaucoup parlé de son caractère très difficile. Il faut dire qu'il était effectivement assez tyrannique, assez, il menait son monde. Ceci dit, c'était souvent de façon assez injuste, puisqu'il a subi une attaque dans les années 60. Et son caractère s'est considérablement dégradé au cours des années 60 jusqu'à sa mort. Avant cela, c'est quand même quelqu'un d'extrêmement drôle, qui aime un très bon ami, on le dit toujours, ami fidèle et généreux. Et justement, à Grousset, il a une petite cour qu'il réunit de privilégiés qui sont très peu nombreux et qui viennent passer des week-ends à Grousset, notamment pendant la guerre, puisque Grousset est un territoire neutre.
Il faut rappeler pourquoi.
Alors, Charles de Bestégui a obtenu un statut de diplomate espagnol, puisqu'il a la nationalité espagnole, et il fait faire de Grousset un territoire neutre. Il s'assure donc de pouvoir continuer à vivre, il est loin de Paris, et il y invite ses amis, c'est une sorte d'oasis. Au moment où l'Europe s'effondre, il l'a reconstruit à Grousset.
Alors ce que vous dites est doublement intéressant parce que c'est effectivement un endroit où on se presse parce qu'on est à la campagne et qu'on est très bien reçu, mais il y a aussi une ferme et des terres à Grousset. Donc au moment où Paris, où tout est rationné, on sait qu'on va toujours très bien déjeuner chez Bestégui et tous les invités repartent avec des œufs, des volailles, du beurre qu'on ne trouve plus à Paris.
Et Charles de Bestégui met un point d'honneur à ignorer la guerre, à faire comme si elle n'était pas là. Et d'ailleurs, il continue à faire importer absolument ce qu'il souhaite pour ses chantiers. Il fait apporter un lustre d'Espagne par la valise diplomatique. Il le fait même importer d'Angleterre, ce qui est absolument incroyable dans les années 40, du chintz pour une de ses chambres à coucher.
Alors, c'est aussi une ambassade qui est une ambassade du bon goût. Vous le disiez vous-même, la propriété est achetée en 1938, la guerre éclate. C'est un monde qui disparaît, c'est le second suicide de l'Europe. Cette Deuxième Guerre mondiale voit l'Europe se déchirer, le patrimoine qui va souffrir de bombardements. On pense bien entendu à Dresde. Et on a là un homme qui, justement, se bat pour magnifier, sublimer ce qu'il y a de mieux dans les cultures des différentes nations européennes. Quand on parcourt différentes pièces de Grousset, on passe d'un pays à un autre, d'une époque à l'autre.
Oui, tout à fait. Charles de Bestégui est né à Paris, il a ensuite vécu son enfance à Madrid, puis il a étudié à Eton, et donc ce sont la France, l'Espagne et l'Angleterre sont des pays, des sources d'inspiration très très grandes pour Bestégui. Les maisons anglaises notamment l'ont beaucoup inspiré. Et ensuite, il voyage notamment en Autriche, il y rapporte un goût, une sorte de rococo autrichien qui est là dans le billard notamment, dans la salle du billard. Vraiment, il va faire se superposer des citations historiques, mais qu'il remet au goût Bestégui, on le dit. Il a un goût Empire Bestégui, un goût Louis XVI Bestégui, enfin voilà, il a vraiment adapté. Notamment la fabuleuse salle hollandaise dans laquelle il évoque, on a l'impression de se retrouver dans un tableau ancien, au-dessus d'une lourde armoire, il y a des luttes et des viols, des très vieux instruments qui sont disposés là comme une nature morte. Il évoque un passé révolu.
Alors c'est très important ce que vous disiez parce que c'est un homme qui est d'une très grande austérité sur le plan du choix des époques, des styles et des objets qu'il achète. Mais il est aussi d'une grande liberté d'esprit pour ce qui est des faux ou des copies. Parce que finalement, Grousset, avec ses deux ailes néoclassiques en retour, ce sont des constructions de l'immédiate après-guerre. Et lorsqu'on parcourt Grousset, à une commode 18e authentique, on en ajoute une seconde pour créer une paire. Il y a un jeu d'illusion aussi avec lequel il aimait jouer.
Charles de Bestégui, on dit de lui qu'il est un grand metteur en scène. Et effectivement, c'est un illusionniste. Une des choses les plus importantes dans le goût Bestégui, c'est sans doute l'effet de surprise qu'il aime créer chez ses amis. Voilà, on arrive et le souffle coupé par la bibliothèque, par la galerie avec ses grandes tapisseries d'après des cartons de Goya, par le théâtre fabuleux. À chaque fois, il va sélectionner un objet, non pas souvent pour sa qualité, mais enfin, c'est surtout l'effet qu'il souhaite avoir. Notamment, vous évoquez des commodes, il fait faire par Lucien Toulouse, qui est un grand artisan, un grand ébéniste de l'époque. Il va faire faire une paire de... Quand il a besoin de deux commodes, il n'hésite pas à en faire faire la paire. Il s'étonne que le marbre soit absolument le même sur les deux meubles. Et en réalité, Lucien Toulouse a coupé le marbre dans la hauteur pour obtenir deux plateaux, ce qu'on ne penserait pas à faire aujourd'hui, évidemment. Il a, voilà, il s'entoure des meilleurs ébénistes, des meilleurs lapidaires. Notamment, il travaille beaucoup avec de la pierre dure, du porphyre. On pense à l'obélisque de la bibliothèque. Il travaille avec les meilleurs peintres, les meilleurs menuisiers. Il va faire en sorte d'avoir, de créer une sorte de petit bijou autour de lui, puisqu'il est quand même très égocentrique. Et voilà, il va créer autour de lui son univers.
Vous venez de parler d'égocentrisme. C'est un homme qui a effectivement une personnalité très curieuse. On évoque encore une fois ce caractère difficile. Il y a un côté... caprice, grand maître ou prince du sang, enfin on ne sait pas. Et puis cet homme qui aime être entouré en permanence, qui ne peut apprécier les constructions qu'il fait surgir ici et là qu'entouré de nombreux amis, en même temps il fuit quelque chose. Il a construit son pont palladien, il se lasse, il faut qu'il ait une autre construction. Grousset terminé, il achète le palais Labia à Venise, qui va être le lieu des bals dans les années 50.
Je pense que c'est aussi la marque d'une très grande générosité. En réalité, il va offrir ce beau, ce parfait à ses amis. On peut voir ça comme une très grande forme de générosité, notamment le bal du Labia, vous l'évoquez, en 51.
Est-ce que ce n'est pas en fait un grand misanthrope ?
C'est une personnalité unique.
Est-ce qu'il n'est pas seul au milieu des autres ? Cet homme qui aime être entouré, mais qui est... Il y a cette photo que tout le monde connaît de Biddon ou d'Ostier, prise au moment du bal du Labia, où il a cette perruque Louis XIV, Louis XV, je ne sais pas.
Oui, il est habillé en procurateur vénitien. Il est sur des échasses, donc de fait...
Il prend de la hauteur.
Il prend de la hauteur, il contemple son triomphe, mais il le fait à la manière des autres du 18e qu'il l'aurait fait à sa place. Donc c'est là encore une forme de citation. Il est... effectivement, il contemple... son triomphe et son succès, mais c'est bien dans l'idée de recevoir et de réanimer, de ressusciter un monde qui est en train de disparaître.
Alors, vous êtes une très bonne avocate, Ariane, et quelqu'un qui pensait comme vous est un autre académicien français qui était Maurice Reims, le commissaire-priseur, qui a été chargé en 1964 de disperser le mobilier du Palais Labia. Quel mobilier ? Le Palais Labia qui venait de réacheter par la RAI, la télévision italienne. Et voilà ce qu'écrit en 1964 maître Maurice Reims de l'Académie française. Et dans la bouche de ce Mexicain qui, sa vie durant, rêva d'être pris pour un grand d'Espagne, ne sortaient plus que des propos soldeurs, à vendre, à vendre, à vendre encore. Parvenu au centre de la salle d'apparat, décorée du haut en bas par Tiepolo, il balaya d'un geste la reine de Troie et le dieu Vulcain, que cela aussi disparaisse. Il ne voulut plus rien entendre et me livra le palais, 700 objets dont il souhaitait tirer 300 millions de lire, que nous adjugeâmes pour bien plus du double et qui, me révéla-t-il, ne lui avait guère plus coûté de 100 millions.
Oui, c'est une bonne description, Charles de Bestégui. On est en 1964, on a évoqué cette attaque. Il est vieux, il est surtout touché dans ce qu'il le fait dans sa chair, dans sa superbe en quelque sorte. Et en 64, il désire se concentrer sur Grousset. C'est l'époque où à Grousset, il réalise ses fabriques. Et effectivement, le Labia devient accessoire. Enfin, il y a fait ce qu'il voulait. Il a recréé le palais vénitien qu'il souhaitait y créer. Il s'en désintéresse, il le vend. Il était persuadé d'ailleurs que Grousset subirait le même sort à sa mort. Un peu avant sa mort, il y a eu un tournage à Grousset et le bal du comte d'Orgel.
Avec Jean-Claude Brialy.
Voilà, tout à fait. Et il lui a confié qu'il pensait absolument...
Oui, il est mourant à l'étage pendant qu'on tourne le film. Il y a une atmosphère crépusculaire que Brialy racontait d'ailleurs. Et quelque chose d'étonnant, mais qui ne devait pas lui déplaire non plus, de savoir que la vie continuait. Et ce roman de Radiguet étonnant, lui-même crépusculaire. Enfin, il y a comme ça des parallèles étonnants. On parle d'une époque qui semble avoir complètement disparu. Il s'agit plus de la Coffee Society que cette affreuse jet set dont on parle maintenant, à laquelle il manque ce qui caractérisait l'autre, la culture, la distinction, le bon goût. Il se trouve que ce monde, en apparence disparu, a quand même survécu grâce à un homme qui est Jean-Louis Rumilleux, que vous connaissez bien, je crois, et qui s'est efforcé jusqu'ici de préserver Grousset.
Tout à fait. Il y a eu avant lui Juan de Bestégui qui a sauvé Grousset, on peut le dire, puisqu'il engage de grands travaux à la mort de son oncle pour être sûr que la maison ne s'effondre pas. Et il dit lui-même qu'elle tenait par habitude, puisqu'on faisait les travaux sans se soucier réellement de la solidité. Il a donc permis à Grousset de subsister jusque dans les années 2000. Et ensuite, il l'a cédé à M. Jean-Louis Rumilleux, une fois vidé totalement par Sotheby's. Il y restait environ plus de 300 objets qui ont été classés monuments historiques et que Juan de Bestégui n'a pas souhaité vendre, qu'il a laissé dans le château. Et Jean-Louis Remieux, qui est un producteur de télévision, qui est un homme de...
Un homme de goût aussi.
De cinéma, oui, tout à fait, décrit son entrée, la première entrée d'un Grousset en disant qu'il avait l'impression de se retrouver sur un plateau de cinéma qui aurait été abandonné. Enfin, vraiment...
Oui, l'image est belle, oui.
Voilà, tout à fait. C'était un décor, et c'est tout à fait ça. C'est le décor de la vie de Charles de Bestégui, et qui avait été tout à coup vidé et abandonné. Et sans le connaître... Jean-Louis Remieux a racheté Grousset et a découvert l'œuvre de Charles de Bestégui et il a souhaité que son esprit soit le décorateur de Grousset.
Et on peut visiter encore, sur inscription et sous condition, Grousset, je crois.
Tout à fait. Le parc est ouvert à l'année et il faut réserver pour être en groupe pour les intérieurs.
Ariane Chauffet-Rivard, je vous remercie de nous avoir fait visiter Grousset et d'avoir fait ressurgir ce monde englouti. Avant que nous nous quittions, j'aimerais que vous nous parliez d'une actualité qui vous est chère et à l'origine de laquelle vous vous trouvez aussi, qui cette fois nous emmène à Chantilly, au Potager des Princes, et qui nous permet de découvrir l'œuvre d'une artiste que vous, qui la connaissez bien ou qui connaissez bien son œuvre, appelée sans doute Panna, et qu'on va appeler ici Madame Suzor de Panafieux.
Oui, Jacqueline Suzor de Panafieux, qui est une artiste du XXe siècle, une femme artiste qui est née au tout début du siècle et qui meurt en 1981. Le musée présente, puisque maintenant on lui consacre un musée à Chantilly, présente ses œuvres des années 20 aux années 80. Et c'est une bonne synthèse de l'art du XXe siècle, qui part du figuratif, marqué par les avant-gardes, notamment le cubisme, puisqu'elle est l'élève d'André Lhote, et qui passe aussi par l'art animalier des années 30. Et ensuite, une grande coupure dans les années 50, un art abstrait qui se veut proche de Georges Mathieu, de l'abstraction lyrique. Et enfin, un art fantastique qui est sa marque, qui est son art avec sa technique très particulière.
Et c'est vous qui êtes la scénographe, je crois, de cette collection qu'on peut maintenant admirer au Potager des Princes.
Oui, j'ai été chargée par Monsieur Bien-Aimé, qui est le propriétaire de la faisanderie de Chantilly, du Potager des Princes, de créer ce musée pour lui. Le musée qui est voué à sa belle-mère, puisque Jacqueline Suzor de Panafieux est la mère d'Annabelle Bien-Aimé.
Donc un lieu dont il faut conseiller la visite à nos auditeurs s'ils sont allés à Chantilly, dont l'Institut de France a la charge aujourd'hui grâce à la générosité du duc d'Aumale. Ariane Chauffet-Rivard, je vous remercie beaucoup.
Merci.